Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus convoqua les 12 et il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les malades. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit, « N'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun un tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole du Seigneur. Jusqu'ici, le Seigneur annonçait lui-même la bonne nouvelle. Il allait de village en village et il guérissait, il expulsait les esprits mauvais. Mais cette fois-ci, il veut associer à sa mission le 12 d'une manière concrète. Et voilà que dans le texte d'aujourd'hui, il les envoie aussi aller proclamer la bonne nouvelle, à faire comme lui. C'est comme s'il disait, écoutez, vous m'avez vu agir, vous m'avez entendu prêcher, maintenant à votre tour, allez prêcher, allez agir, allez faire comme moi. Pour dire que aujourd'hui, nous, chacun, chacune de nous est considéré comme disciple, apôtre du Seigneur. C'est nous qui sommes envoyés dans notre milieu de vie aujourd'hui. Et croyez-moi, le Seigneur nous précède toujours quand il nous envoie là où il pense que nous pouvons faire connaître son message. Comme il a d'abord commencé lui-même à enseigner, à accomplir sa mission avant d'envoyer les apôtres, il agit de la même façon avec nous. Regardez ce qu'il dit aux apôtres, « Ne vous préoccupez de rien, ni argent, ni sac, rien. Allez annoncer la bonne nouvelle. » En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est une urgence, le message est urgent. Il ne faut pas perdre le temps avec des choses secondaires. Il ne faut pas attendre de guérir quelqu'un. C'est tout de suite qu'il faut aller à la guérison. C'est tout de suite qu'il faut aller annoncer la bonne nouvelle. Il ne faut pas mettre au-devant de vous des choses de seconde importance. En même temps, il demande d'avoir une totale confiance en Dieu. Si on parle main vide, mais oui, mais comment les choses vont se dérouler? Rien, la confiance totale en Dieu. Dieu qui n'oublie pas, Dieu qui continue à soutenir ce qu'il envoie en mission, Dieu qui continue à pourvoir à nos besoins. Est-ce que c'est nous qui guérissons? Est-ce que c'est nous qui allons faire les miracles? Non, nous sommes au service de Dieu, nous sommes au service de l'Esprit. Alors, à travers nous, comme instrument, Dieu va faire les miracles, Dieu va guérir les personnes. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est tout être simplement disponible, docile à l'Esprit du Seigneur. Voilà comment, peut-être, nous pouvons saisir le message qui nous est adressé aujourd'hui. Dans l'Eucharistie, nous allons demander ce concours de Dieu, que Dieu vienne nous appuyer dans notre mission, nous encourager et surtout nous donner de l'accueillir avec confiance pour aller au-devant de nous, annoncer cette bonne nouvelle. Voyez-vous, cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle qu'a aussi annoncé Padre Pio. On connaît sa vie. Quand tu lis sa vie, tu te dis comment est-ce qu'un homme peut-il souffrir tant? C'est sûr que la souffrance reste un mystère, on ne peut pas dire que nous comprenons tout. Mais il y a certaines personnes qui ont souffert, comme notre Seigneur par exemple. Alors des gens comme Padre Pio et d'autres encore, quand tu lis leur vie, tu te dis, il y a quelque chose qui se passe là. Quand on vit la souffrance, on a l'impression qu'on est abandonné. Mais quand on lit la vie des personnes qui ont vraiment souffert, on se dit après coup, ah, en fait, quand ils souffraient, Dieu était toujours à côté d'eux. Donc, pour dire, en fait, quand nous pensons être dans le désespoir, dans les ténèbres, dans le noir sombre, il faut savoir que le Seigneur est toujours là. Regardez Padre Pio, il voulait tellement devenir prêtre franciscain, mais il n'avait pas de santé. À tel point qu'à un moment donné, ses supérieurs disent, mais lui ne peut pas rester en communauté, il faut le renvoyer peut-être en attendant qu'il vive dans sa paroisse d'origine. Il a accepté, il est parti vivre dans sa paroisse, alors qu'il désirait tellement rester avec la communauté des franciscains, mais il est parti vivre avec son curé, en même temps qu'il suivait une certaine formation. En tout cas, tout va s'arranger à ce qu'il devienne prêtre franciscain, mais en devenant prêtre franciscain encore, la santé ne lui permettait pas de fonctionner normalement. Mais malgré tout, il est resté en communion avec Dieu, de seul à seul, un homme qui priait, qui essayait de tout faire pour suivre la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il reçoit? Eh bien, il reçoit de Dieu des grâces spéciales pour accueillir les pauvres, les malades, les personnes dans le besoin. À tel point que dans le couvent où il vivait, les gens se précipitaient pour aller assister à sa messe le matin. Et quand tu assistais à sa messe, tu avais le cœur qui était remué. Sa manière de célébrer, ses paroles douces et touchaient le cœur des gens. Mais en fait, il était instrument de la grâce de Dieu. Mais ce que je trouvais fort, c'est de voir que, à un moment donné, les choses ont tourné, qu'on parlait tellement de lui, en bien, en mal, c'est devenu une confusion, à tel point que Rome, à un moment donné, décide, écoute, Padre Pio, cesse de célébrer la messe en public. Avec beaucoup de souffrance, il accepte. Et je me rappelle quand un de ses confrères, avec qui il s'entendait très bien, est parti de lui dire dans sa chambre, le père a éclaté en sanglots, dit le texte. Il a commencé à pleurer. Mais il a accepté. C'est une souffrance. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Après, on l'a laissé libre, quelques années après. Il a continué à célébrer, et puis à accueillir les personnes, à les offrir au Seigneur, à imposer les mains aux malades. Et jusqu'à aujourd'hui encore, les gens vont à sa tombe. Alors, pour dire qu'en fait, la confiance en Dieu, comme dit Jésus là, n'amenait rien. Pas votre volonté, pas de l'argent, pas de sacs, allez annoncer. Il me semble que Padre Pio a fait cela. Résultat, Dieu a toujours été avec lui. Le pape, comme je le disais, va canoniser Gianni Pero Serra. C'était un prêtre de Palma de Mallorca. Il a fait ses études là-bas, un franciscain aussi. Padre Pio était de la branche des franciscains, mais Gianni Pero, lui, c'était vraiment un franciscain, et parce que Padre Pio était capucin, alors Gianni Pero, ce qu'il va faire comme franciscain, il était un intellectuel, il a donné cours de philosophie, de théologie à Palma de Mallorca, mais il a toujours voulu aller en mission. Alors à l'époque, eh bien, c'était l'Amérique qui était colonisée par l'Espagne, alors il était envoyé au Mexique actuel, où il a travaillé. Puis à un moment donné, les jésuites qui avaient des missions au nord du Mexique, qu'on peut appeler aujourd'hui du côté de la Californie, eh bien, bon, les jésuites étaient renvoyés parce qu'ils étaient bannis à ce moment-là par le roi de l'Espagne. Alors les franciscains qui étaient au Mexique, on leur a demandé de monter plus haut, d'aller au nord pour continuer la mission. Alors, Gianni Pero, qui était là-bas, qui aimait beaucoup faire la mission, c'était vraiment ce qu'il désirait, il est monté comme supérieur avec d'autres franciscains, et il a travaillé avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, il a aidé les Indiens qui étaient là-bas à ce moment-là, et puis il a beaucoup lutté pour la promotion de l'Indien et pour son développement intégral. C'est sûr qu'il y a beaucoup de controverses autour de la souffrance qu'ont connue les Indiens, vous entendrez parler de ça. C'est vrai qu'il faut reconnaître des choses qui étaient négatives, mais il faut reconnaître aussi le bien qui a été fait, comme avec Gianni Pero. Alors moi, ce que je voulais dire, tout simplement, qu'il a fondé, les franciscains ont fondé 21 missions en Californie. Et Gianni Pero en a fondé 10 à lui seul, dont San Diego et puis San Francisco. Moi, personnellement, il y a plusieurs années, je n'avais imaginé que San Francisco, c'était le nom de François d'Assise. Je n'avais jamais eu ça comme idée. Mais le jour où j'ai découvert, j'ai dit, mais regarde-moi ça, c'est Saint François d'Assise. En fait, les franciscains, quand ils ont fondé cette mission-là, ils ont donné le nom de leur fondateur, François d'Assise. On l'appelle encore aujourd'hui la ville San Francisco. C'est la ville, en fait, c'est Saint François d'Assise. Voyez-vous? Donc c'est la marque encore de l'évangélisation. En tout cas, on va remercier le Seigneur pour le travail de Jenny Perrault, qui est appelée l'apôtre de la Californie. On va demander que le Seigneur, par l'intercession de Jenny Perrault, que la mission continue en Amérique, que nous continuons aujourd'hui à annoncer Jésus-Christ aux pauvres, aux simples, et que nous luttions toujours pour le développement intégral de toute personne. Amen.